Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Seigneur, ce matin nous déclarons que Kobangali sosoté. Ce matin nous déclarons que la peur, la crainte et toutes formes de phobie ne seront plus notre lot. Parce que nous savons que tu es là. Parce que nous savons que tu es au contrôle. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi promènes-tu les regards inquiets? Espère en Dieu, car je le louerai encore et toujours. Merci pour ces merveilleux cultes. Merci pour ces cris que nous avons fait monter vers toi. Or, la Bible déclare que quand le juste crie, l'Éternel entend. Et de toutes ses détresses, il les délivre. Le psalmiste dit, au jour de ma détresse, je t'ai invoqué. Et c'est ce que nous venons de faire. Tu m'as exaucé, c'est ce que tu vas faire sûrement. Et nous reviendrons faire comme le psalmiste qui a dit, quand tu m'auras exaucé, je t'exalterai dans l'assemblée des saints. Toi, esprit de découragement, je te chasse. Toi qui noircis tout aux yeux de cet homme et de cette femme, ton règne est fini. Ce matin, cette femme, cet homme, ce jeune homme et cette jeune fille déclarent comme les psalmistes, je ne mourrai point, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Ce matin, comme Job, quelqu'un déclare, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers, mes yeux les verront, et pas ceux d'un autre. Bénis aussi ta parole, au nom de Jésus. Et en attendant que tu nous exauces, nous anticipons en t'acclamant, en t'apportant nos actions de grâce. Que Dieu soit béni. J'aimerais dire à quelqu'un, attends-toi à Dieu. La prière, c'est notre part, l'exaucement, c'est sa part. Et dans l'exaucement, il choisit les quand, les comment, les moyens, les méthodes. Au jour de la Pentecôte, l'Église avait prié. Ils attendaient que la promesse s'accomplisse. Mais j'aime quand la Bible est dit tout à coup, sans s'annoncer, sans des éléments précurseurs. Je prie que les gens de bénédiction qui arrivent tout à coup puissent être ton partage. Les gens de bénédiction qui arrivaient à Joseph, qui a attendu longtemps, et tout à coup on vient les faire de sortir de la prison. La Bible dit en hâte. Et son statut change en un rien des temps. Je prie que dans les jours qui viennent, ce qui était les paroles du psalmiste puisse être tes paroles à toi. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve. Et amen. Si tu le crois, dis amen.
Amen.
Que Dieu te l'accorde. Alors, je fais la première lecture dans Genèse 2 Samuel 14, 23 à 24. La première lecture, je la fais dans Genèse chapitre 27, le verset 34. À 38, et puis 41 à 45. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté deux fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, n'as-tu pas réservé des bénédictions pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai plutôt pourvu des blés et des vins. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Verset 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Verset 41, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disant en son cœur, les jours du deuil de mon père vont s'approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fouille chez Laban, mon frère, à Charan. Reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Genèse chapitre 50, verset 15 au verset 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tous les mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. J'aime les versets 21. Soyez sans crainte, je vais vous entretenir, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 14, verset 23. Verset 24. Et Joab s'éleva et partit pour Geshur et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison, qu'il ne voie point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et ne vit point la face du roi. Depuis dimanche passé, nous sommes en train de parler et de réfléchir sur la cinquième béatitude qui est mentionnée dans Matthieu chapitre 5 au verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le dimanche passé, nous avons d'abord essayé de dire, premièrement au début, que c'était l'une des béatitudes plus faciles à prêcher, plus faciles à enseigner, qu'à vivre. Et je l'ai dit avec sincérité, même moi-même, j'ai plus facilité à les prêcher qu'à vivre. Deuxièmement, nous avons essayé de définir c'était quoi la miséricorde. On ne va pas trop revenir là-dessus, je vais peut-être prendre simplement l'une des définitions, compassion pour la misère et la souffrance d'autrui qui fait bouger nos entrailles. Et nous avons dit que cela supposait l'identification à l'autre, mais aussi le fait d'être sensible. Nous avons dit aussi que c'était la vertu qui poussait à soulager les autres du poids qu'ils portent à cause de leurs mauvaises actions qu'ils ont eu à faire. Nous avons dit aussi que c'était la générosité qui entraînait et amenait à pardonner ou accorder l'indulgence. Et là, nous avons mentionné une chose importante en disant que la miséricorde était un choix. Et si nos souvenirs sont bons, nous avons mentionné six principes attachés à la miséricorde. Et cela est parti des deux textes que nous avons lus et de notre texte principal. Le premier principe que nous avons mentionné, nous avons dit que cette béatitude ne parlait pas d'un caractère que l'on prétendait avoir, mais d'un véritable caractère suivi des actes. On ne dit pas qu'on est miséricordieux. Cela se voit au travers des choses qui suivent. Deuxièmement, nous avons dit que la miséricorde était un investissement qui rapportait. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront aussi miséricorde. Et nous avons dit qu'ils obtiendront miséricorde de deux sources. Ils obtiendront miséricorde de la part de Dieu, mais ils obtiendront aussi miséricorde de la part des hommes, car Dieu rendra les autres capables de leur rendre ce qu'eux leur donnent aussi. Si vous êtes miséricordieux, si vous savez soulager les autres de leurs maux, du poids de leur culpabilité, Dieu qui est bon et juste permettra qu'on vous rende aussi la même chose. Mais soit dit aussi en passant, si vous n'êtes pas miséricordieux avec les autres, Dieu ne sera pas miséricordieux envers vous. Et il faudra aussi que le cœur des autres puisse être fermé. Quand il vous arrive de fauter, quand il vous arrive de mal vous comporter, il fera aussi que les autres puissent être durs. Souvenez-vous de cette parabole, de cet homme qui devint un montant colossal et qui réalisait qu'il ne pouvait pas le payer, mais quand même il a pris des engagements. Je veux essayer de tout faire. Et son roi, son chef a vu, non, il lui a rendu. Soulagé de ses maux. Désormais, celui qui dormait avec, qui n'arrivait presque pas à dormir, insomnie, maux de tête, réfléchissait, comment je vais faire? Il pouvait dormir paisiblement. Mais quand lui-même est allé pour un autre montant insignifiant, il n'a pas voulu libérer l'autre. Et quand cela est arrivé aux oreilles du roi, les rois qui avaient déjà lâché, dit non, je vais les traiter comme lui, traite les autres. Faites-les revenir, et la Bible dit, on l'a mis en prison. Troisièmement, nous avons dit que la miséricorde était toujours un choix qui nous engageait directement. Qu'est-ce que nous avons voulu dire par là? Nous avons voulu dire, il est possible que nous puissions accorder miséricorde sans que quelqu'un la sollicite. C'est un choix. Nous décidons parce que nous comprenons la souffrance de l'autre, nous voulons libérer l'autre, mais nous avons dit aussi que la miséricorde peut être sollicitée. Et quand elle est sollicitée, comment j'ai réagi, comment tu réagis? Dans la parabole que nous avons lue, nous voyons cet homme qui sollicite, prend pitié. Et puis cela lui a été accordé. Mais nous voyons aussi, lui-même se retrouvant maintenant dans la position de force. Avant, c'est lui qui demandait, mais là on lui demandait. Il a eu plus facile à tendre la main à obtenir la miséricorde qu'à la donner aussi. En retour, quel choix tu fais? Quel choix nous faisons par rapport à la miséricorde? Quatrièmement, nous avons dit que la miséricorde avait toujours des sources. Et parmi ces sources, nous avons dit, elle tire premièrement sa source de notre relation avec Dieu. Sans Dieu, nous sommes incapables de soulager l'autre de ses maux. Et nous allons les voir au travers des trois textes que nous avons lus aujourd'hui. Nous avons dit, deuxièmement, la source, c'était la compréhension que nous avions des autres. Non, je ne suis pas parfait. Il n'est pas parfait. Elle n'est pas parfaite. Aujourd'hui, c'est elle qui a fauté. Demain, ça peut être moi. Puisque je comprends que je suis aussi faillible. Je suis en position de force parce que c'est moi qui suis offensé. Mais demain, je peux être l'offenseur. Et je comprends que ça peut changer. Je dis, si les choses peuvent changer, pourquoi ne puis-je pas soulager l'autre? Troisième source, nous avons dit, c'était la compréhension que nous avons de la miséricorde que nous avons obtenue de Dieu. Et que même nous obtenons encore aujourd'hui. Combien de fois cela ne nous arrive pas de revenir auprès de Dieu pour les mêmes choses? Si Dieu avait un quota, et que tu reviens, Seigneur, c'est encore moi, j'ai menti, t'ai dit, ça fait 118 fois. Mais Dieu pardonne. Et nous sommes prêts à revenir vers Dieu pour les mêmes choses. Seigneur, c'est encore la colère. Seigneur, je reviens encore, j'ai regardé ce film que j'aurais pas dû regarder. Si Dieu nous fermait son cœur. C'est pour cela que j'aime beaucoup, j'en ai parlé ici, la nuit du 31 au premier. Combien il était important que nous puissions connaître cet aspect de notre Dieu. Quand David a mal agi et que Dieu décide, je vais frapper, il lui propose trois options. David dit que je tombe entre les mains de Dieu car il sait avoir miséricorde. Il connaissait cet aspect de Dieu. Que je ne tombe pas entre les mains des hommes, parce que les hommes peuvent se fatiguer. Mais que je tombe entre les mains de Dieu qui sait avoir miséricorde. Cinquième chose que nous avons dit, que chaque fois que la miséricorde était pratiquée, donnée ou acceptée, il y avait perte d'un côté et gain de l'autre côté. Quelqu'un perd chaque fois quand la miséricorde est accordée. Cet homme qui a accordé la miséricorde, il a perdu 100 millions de dollars qui étaient à lui, qu'il a donné à quelqu'un en disant presque comme une banque, garde pour moi, je l'aurai parce que tu as des besoins. Mais cet homme a utilisé ça autrement et il était sûrement tendu, mais c'est mon dû. Il a cédé cela. Quelqu'un perd, mais quelqu'un aussi gagne. En général, nous sommes dans la position de celui qui gagne, mais quelquefois Dieu nous placera dans la position de celui qui perd et qui doit perdre. Est-ce que j'accepte de perdre? Est-ce que j'accepte de ne pas avoir? Et sixièmement, nous avons dit que la miséricorde est quelque chose de plus facile à recevoir qu'à accorder. Et c'est là où nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons ajouter quelques autres principes selon que le temps va nous le permettre. Septième principe que j'aimerais ajouter, c'est que la miséricorde a des degrés. La miséricorde a des degrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule façon de faire miséricorde, il y en a plusieurs. Et parmi les façons de faire miséricorde que j'ai qualifiées de décret, il y a premièrement l'absence de miséricorde. Ça, c'est un premier degré de miséricorde. L'absence de miséricorde. Je ne soulage pas l'autre. Je ne lui pardonne pas. J'ai donné l'exemple de cet entraîneur français qui... Non. Combien de fois n'avons-nous même pas entendu à l'église quelqu'un dire « Toi et moi, on parlera seulement au ciel ». On est dans la chorale, on s'est cogné, non. Elle a médit sur moi, elle a sali ma réputation. Elle et moi, on se saluera seulement au ciel. Alors j'ai dit, il faudra d'abord que vous y soyez. Sinon, vous vous saluerez à un autre endroit. Absence de miséricorde. Et j'aime souvent dire, c'est plus facile de blâmer ceux qui ont difficile à accorder miséricorde que d'être à leur place. C'est pas si évident. Je donnais cet exemple dimanche passé au deuxième culte. Je suis souvent allé prêcher l'évangile à Goma. Et je me retrouve, je pense, les premières années où j'étais étudiant en Nairobi, venir prêcher. Et je rencontre un homme qui m'a dit, il a grandi ici, au Congo. Et puis quand les choses se sont arrangées de l'autre côté, juste en face de Goma, il est retourné là-bas. Et quand il est arrivé, Il a commencé à prêcher parce que lui n'a pas vécu les génocides. Il a commencé à prêcher sur le pardon. Pardonnez-vous. Quelqu'un dit, non, moi, mon fils a été pillé dans un mortier. Ça ne fait rien. Dieu pardonne. Facile, hein? Quelqu'un dit, le meilleur conseil, c'est ceux qui ne vivent pas la situation. Est-ce que c'est un autre ou non? Il prêchait sur le pardon. Et puis 3 mois après, un jour, il se réveille le matin, son père et sa jeune sœur, non seulement tués, mais coupés en petits morceaux. Il les a retrouvés comme ça. Il a dit, les pasteurs qui sont venus me visiter, il y a un qui a fait montrer du cynisme, mais j'ai compris ce qu'il voulait m'enseigner. Il dit, quand les gens venaient pour me consoler, il est allé voir et me dit, pasteur, aujourd'hui c'est toi qui vas prêcher. Et prêche sur le pardon. Prêche sur le pardon. Dis Dieu pardonne, malgré ce que vous venez de voir. Je pardonne. Plus facile à prêcher. J'en parlerai vers la fin. Quand tu rêvais que ta virginité, tu vas l'offrir à l'homme qui sera ton mari. Tu t'es gardé 20 ans, 22 ans, 23 ans. Et puis un oncle qui vient du village, en pleine nuit, il vient, il te force. Et tu perds ce précieux cadeau que tu voulais garder pour lui. Comment pardonner? Comment faire miséricorde aussi facilement? Quand quelqu'un détruit votre vie, comme cette jeune fille avec laquelle je parlais, qui a grandi à l'est du pays, elle s'est gardée jusqu'à 23 ans, vierge. Elle a été violée par 5 hommes le même jour. Et non seulement qu'elle est tombée enceinte, mais c'est pas des 5, quelqu'un l'a infectée. Depuis 3 ans sous trithérapie, toute sa vie s'écroule. Comment faire miséricorde? Comment faire miséricorde quand vous avez un certain train de vie? Vous alliez en Europe en vacances, vous alliez à l'école en véhicule, et puis papa meurt, des oncles, plein de convoitises, que du vivant du papa, vous voyez déjà, ce véhicule sera à moi, à peine papa meurt, et des fois même, le corps n'est pas encore enterré, il commence à prendre certains effets, et vous mettre à la rue, et votre train de vie change. Ah, c'est plus facile de venir dire à cette personne, pardonnez. Pas évident. Donc, premier degré, absence de miséricorde. Deuxième degré, c'est la fausse miséricorde. La miséricorde apparente, mais pas profonde. Des fois, les gens qui l'accordent pensent avoir pardonné, mais elles n'ont pas pardonné. Et l'exemple de cette miséricorde, c'est celle de David que nous voyons, que nous avons lu dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 14, versets 23 à 24. David a mal. Il a mal pourquoi? Quelque chose s'est passé. Sa vie en tant que roi était calme. Tout allait bien. Jusqu'à ce qu'un jour on vient lui apprendre, l'un de tes fils, Amnon, est mort. C'est vrai, il a mal agi. C'est vrai, il a violenté une de ses sœurs, mieux une demi-sœur. Mais il a déjà perdu Amnon. Et il voit la souffrance de Tamar. Et il est obligé de gérer Absalom. C'est plus facile de dire, David dit, Absalom, je te pardonne. Quand une délégation, d'abord une femme, et puis Joab, viennent jouer un peu au diplomate, David a pardonné, mais il n'a pas vraiment pardonné. Parce qu'on les voit dire qu'Absalom revienne, mais qu'il soit loin de ma vue. Je ne veux pas le voir. Je ne lui tiens plus autant rigueur qu'avant, mais qu'il reste dans son coin. Je n'ai pas envie de le voir. Miséricorde accordée, mais pas vraiment accordé. Troisième degré, c'est il y a la miséricorde accordée, mais les relations qui changent, c'est-à-dire qui baissent en qualité. Je te soulage, je te tiens plus rigueur, mais désormais plus rien n'est comme avant entre nous. Rigueur par rapport à ces problèmes, je te tiens plus. Mais écoute, tu ferais mieux de rester dans ton coin. Comme un homme qui a découvert qu'un de ses amis faisait la cour à sa femme, l'une des choses qui fait le plus mal. Et quand il a découvert, il est allé voir cet ami, il lui a parlé en ami, en pote. Il dit, je ne serai pas converti, je réglerai ça virilement. Tu me vois là, 1m95, 92 kilos. Et toi, tu es 1m72 et 67 kilos. Il dit, ce coup de poing fermé, c'est 3,8 kg. Et ça te déplace vers tes gencives, l'endroit où tu auras le plus dans les jours qui viennent, c'est chez les dentistes. Je te pardonne, mais je te donne une distance. Je ne vais pas te voir dans les périmètres de chez moi. Il lui a dit, si je te vois, tu sauras qu'à part la spiritualité, j'ai un corps physique. Je te tiens plus rigueur, mais la qualité des relations change. Quand je dis ça, je dis, c'est facile. La plupart des fois, l'offenseur veut réclamer que tout revienne de suite. Tout revient directement. J'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement par rapport au couple. Et là, c'est surtout nous, le problème de nous, les hommes. Nous, les hommes, on a un problème physique. Vous savez, les femmes, pour une bonne intimité, le cœur a besoin d'être en paix. Nous, le cœur en paix ou pas? Nous, c'est l'impulsion. En tant que pasteur, combien de fois j'ai entendu, ça fait 3-4 semaines, on ne parle pas. Et certains veulent la réconciliation pour que dans un certain domaine, les choses reviennent. Bon, l'émission, pour nous ramener dans le bac. Et 5 minutes après, c'est aussi mécanique que ça. Tu penses que les choses redeviennent aussi normalement, comme si on a appuyé sur un bouton. Ah, quelquefois, il faut du temps. Il est quelquefois important de participer à la guérison des blessures que nous avons causées pour que finalement les choses redeviennent normales. Et quatrième degré, il y a la miséricorde accordée et un retour à la qualité initiale des relations. Soit directement, soit comme un processus. Et là, le père du fils prodigue nous enseigne énormément. Il avait été offensé, très offensé. Il a accordé miséricorde. Mais il a fait revenir l'autre dans sa position initiale. Tellement il a fait de tout cœur que son fils qui était dans la maison était choqué. Parce qu'il pouvait s'imaginer, c'est vrai, on sait pardonner. On ne doit pas faire revenir à la position initiale. C'est pour ça qu'il s'est dit, mais j'ai toujours été ici. Je me suis bien comporté. Le premier livre des rois, au chapitre 2, versets 5 à 6, ainsi que 8 à 9, nous relate un récit qui montre que David n'avait pas véritablement accordé miséricorde à quelqu'un qui lui avait fait du mal. J'ai bien étudié les sujets. J'ai dit, waouh, David était rancunier jusqu'à ce point. Premier livre des rois, chapitre 2, 5, 6 et puis 8, 9. Ces paroles sont prononcées au soir de la vie de David. Et ces deux paroles, pour l'une d'elles, les faits remontent à il y a 40 ans et même quasiment 42 ans. Et pour le deuxième fait, ça remonte entre 12 et 13 ans. David est sur son lit de mort parce qu'au soir de sa vie, on disait qu'il était un vieillard croulant. Il réunit les forces pour parler à Salomon. Il dit, tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tchérouz. C'est qu'il a fait des deux chefs de l'armée d'Israël, à Abner et à Amasa. Il les a tués et il a versé pendant la paix les sang de la guerre. Et il a mis les sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein. Verset 6, j'essaie d'imaginer, les paroles venaient, tu agiras selon la sagesse.
et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Waouh! Donc tout ce temps qu'il vivait avec Joab, il avait quelque chose au travers de la gorge. Ça remonte avant même qu'il devienne roi. Ça c'est pour les crimes de Joab vis-à-vis d'Abner. Mais ça remonte il y a quelque temps quand Absalom s'est révolté et Amasa a été tué. On sent David bizarre. Quand ces deux feux se passent, on ne le sent pas s'exprimer, montrer qu'il a souffert. Faites attention aux gens trop silencieux. Il y a des gens pas expressifs. On ne sait pas quand il est content. On ne sait pas quand il est triste. Ses joies sont silencieuses. Ses tristesses et ses colères sont aussi. Et puis un beau jour, il vous sort ça. 15 ans de mariage, puis il s'est dit, on se bat réunion, la famille, tout le monde a yolo. Mais après cela, vous avez eu 5 enfants. Donc comme si la vie était redevenue normale, mais l'effet de la réunion des YOLO. Seigneur, aide-nous. Et on sent que David a gardé cela au travers de là. Et le deuxième fait, il parle de Shimei. Shimei, cet homme qui lui avait fait mal. Les jours où David fouillait Absalom, Shimei s'est levé, il a commencé à faire soulever la poussière. Homme de sang, va-t'en, tu as eu ce que tu mérites. L'un des officiers de David a voulu même lui couper la tête et dit, laisse-le. Qui sait si ce n'est pas l'Éternel qui lui dit de faire ça? Et quand Absalom est vaincu, David retourne. L'une des premières personnes à venir l'accueillir, c'est qui? Shimei. Et la même personne qui voulait en découdre avec Shimei veut poser les mêmes actes. David montre comme si il a accordé pardon. Il dit, ne les touche pas. Il va même plus loin en disant, est-ce un jour pour faire mourir des gens? Au soir de sa vie, sur son lit, il rassemble des forces. Voici, tu as près de toi Shimei. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes. Les jours où j'allais à Manahim, mais il descendit à ma rencontre vers les Jourdains et j'ai juré par l'Éternel que je ne ferai point mourir. Tu as juré, papa. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage. Azokoumi, ça y est, tu es un homme sage. Et tu sais comment tu dois les traiter. Tu feras descendre plein de sang ses cheveux blancs dans le séjour des morts. On sent qu'il traînait cela toute sa vie. Des fois, quand il passait, il voyait Shimei. Ah, la miséricorde, pas facile. Celui qui agit ainsi, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Si on peut ouvrir plusieurs cœurs, il y a des prisons bien cadenassées. L'oncle là de Lemba, donc au Kanga, il y a 4 tours. Oncle Makengo. La tante là qui est venue de Madimba, tante Mansanga. Elle, hein, des fois tu dis, son Lamba et même Kamundela. Je peux en faire des brochettes. Comme je l'ai dit, la manière dont David a parlé montre qu'il n'a jamais accordé miséricorde. Il a eu ça au travers de la gorge. Et par rapport à Joab, trois raisons sûrement étaient à la base qui ont empêché David de sévir par rapport à Joab. Trois raisons. La première raison, c'est les liens de parenté qui les unissaient. Joab était fils de la sœur de David. C'est le fils de ma sœur. Deuxième raison, c'était l'un de ses généraux les plus importants qui, en termes de charisme, d'organisation, de stratégie, sur la victoire de David, on peut accorder les crédits à plus de 60% à Joab. Un homme de terrain. Donc, autant il avait mal agi, mais David disait, je lui suis un peu redevable. Mais troisième raison, c'était le caractère de David. Un introverti. qui n'exprime pas toujours ses émotions, qui les garde. Combien quelquefois c'est bien d'exprimer et de passer, mais d'exprimer aussi avec la manière. Et là, surtout, je voudrais ouvrir une parenthèse pour les femmes. Les femmes, des fois, mais bimi, ça me fait bien. Plein de rancœur dans son cœur. En même temps que l'on voit David, qui a difficile à accorder miséricorde, Genèse 50, 15 à 21, nous montre les degrés les plus élevés de la miséricorde, manifestée par Joseph à l'égard de ses frères. Et dans ce texte, Genèse 50, 15 à 21, il est manifeste par cinq actions. Ah, nous savons, pas combien les gens qui nous ont offensés souffrent eux-mêmes. S'ils ont quelques consciences, ils souffrent, ils n'osent pas les dire. Les frères de Joseph l'avaient vendu. Joseph peut se souvenir, ces jours-là, ils l'ont arrêté, ils l'ont dépouillé de sa tunique de plusieurs couleurs. Ils l'ont jeté dans cette citerne. L'un des dira même, il nous demandait miséricorde et pitié. Et nous ne l'avons pas écouté. Ils l'ont vendu aux Madianites. Quand ils partaient, ils ont dit, allez, on verra tes rêves. Et il est parti comme ça, souffrant physiquement et moralement. Et des années plus tard, il se retrouve et les positions ont changé. Ceux qui étaient en position de force sont maintenant en position de faiblesse. Joseph est devenu quelqu'un de grand. Et tant que papa était là, il formait un peu le bouclier et leur paratonnerre. Il se disait, non, Joseph ne pourra pas tout exprimer. Et puis voilà, papa meurt. Ils ont conscience et disent, waouh. Et ils ont une réunion en aparté sans Joseph. Et ils fomentent bien un complot. Voilà, nous allons lui dire un testament que papa n'a pas laissé. De son vivant, voilà ce que papa avait dit. Tout cela a été dicté par la conscience qui leur reprochait. Il s'est dit, c'est sûr, il va nous rendre le mal. Ils veulent dire, sûrement, il est comme David. David n'a rien exprimé, mais au soir de sa vie, il a tout craché. Qui sait s'il n'est pas comme lui? Mais Joseph, c'est un homme spécial. La première des actions qu'il pose, il pleure en entendant leurs propos. L'abbé dit, il fondit en larmes. Émotion soudaine, mais émotion sincère et vraie. Il pleure. Il veut leur dire, j'ai pas ça, je suis pas de cette race. J'avais eu mal, très mal. Mais pour moi, ça fait partie du passé. Comment pouvez-vous vous imaginer des choses comme ça? Deuxième action qu'il pose, il les rassure. Soyez sans crainte. N'ayez pas peur. Ne laissez pas ce sentiment d'insécurité qui habite votre cœur s'inviter. Troisième action qu'il a posée, il leur a montré que le mal apparent avait produit quelque chose de bien. Vous aviez mérité de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Il minimise le mal. Il ferme les yeux sur le mal. Il dit, même s'il y a eu mal, mais voilà les résultats. Ne vous laissez pas tracasser par cela. Je vous sens troublé. Certes, il y a eu de mauvaises choses, mais voilà ce que ça a produit. Quatrième chose, il prend l'engagement de bien les traiter, eux et leurs enfants. Il dit, je veux vous entretenir. Et il pensait qu'il va dire, je veux vous mettre en prison. Surtout toi, Ruben. Surtout toi, tu te souviens ce jour-là? Je veux vous entretenir. De bien viendront de mes poches pour vous soulager. Non seulement vous, mais vos enfants aussi. Et cinquième action, c'est là où je trouve la grandeur de la miséricorde. Je demande à Dieu, accorde-moi ce cœur. Il dit, il les consola en parlant à leur cœur. Il parle à leur cœur. Il enlève l'amertume, il enlève les troubles. Il les console. Je peux m'imaginer quand Joseph parlait comme ça, tous fondaient en larmes. Il se disait, il est plus fort que nous. Les mots utilisés ici pour dire consoler est un terme fort. Il signifie réconforter en apportant de l'apaisement. Rendre moins pénible un sentiment qui est fort et soutenu. Il s'occupe des émotions, de la douleur de ceux qui lui ont fait du mal et qui en sont conscients. La grande question qui est double, pourquoi y a-t-il des degrés de miséricorde? Et qu'est-ce qui rend certaines personnes capables de pardonner jusqu'à un niveau et d'autres sont incapables d'atteindre ce niveau? Qu'est-ce qui fait que certains s'arrêtent au niveau de l'absence de miséricorde? Qu'est-ce qui fait que d'autres s'arrêtent au niveau d'une fausse miséricorde apparente? Qu'est-ce qui fait que certains arrivent à un degré de miséricorde, mais les relations ne reviennent plus comme elles étaient? Mais qu'est-ce qui fait aussi que certains sont capables jusqu'à aller au degré le plus élevé? Je prie que moi-même et nous tous à Philadelphie soyons de ceux-là. Capables comme Joseph de revenir à l'état initial. Qu'est-ce qui fait cela? Trois réponses et puis nous allons clore ce matin. La première, c'est la personnalité de chacun de nous. La personnalité. Je préfère même dire notre tempérament. C'est vrai, le mot n'est pas biblique. Mais en lisant la Bible, on peut retrouver cette réalité. Les psychologues essaient de définir des personnalités en allant dans quatre directions. Je n'aimerais pas trop m'atteler. On parle des sanguins, on parle des flegmatiques, on parle des colériques, et que sais-je encore? Même si ce n'est pas écrit dans la Bible, on sait voir ces tempéraments. On sait voir que tel agit. Et notre personnalité influence notre façon de réagir par rapport au mal. Quelqu'un qui est sanguin n'a pas la même réaction quand il est offensé. Un colérique, pas la même chose. Un flegmatique, pas la même chose. Notre personnalité. C'est pourquoi il est bon que nous puissions soumettre notre personnalité au Saint-Esprit. Il est bon que nous puissions nous connaître, Seigneur. Voici comment je suis. Avant ma conversion, j'ai entendu des gens qui connaissaient bien leur personnalité. Quand ils parlent aux autres, j'ai des colères terribles, conscients de cela. Deuxième chose qui fait que la miséricorde puisse avoir des degrés, c'est les degrés de l'offense. La qualité ainsi que la quantité de l'offense influence toujours aussi la qualité et la quantité de la miséricorde. Il y a des choses pour lesquelles on est prêt à soulager l'autre facilement. J'avais demandé qu'elle puisse me repasser cette chemise afin que je ne sois pas en retard. Et puis je rentre, je la trouve en train de regarder une série nigériane. Je suis offensé. Bof, mais je dis, c'est pas grave, je vais prendre une autre chemise. Mais j'ai gagné l'argent le 20. Et je sais que la prochaine rentrée, ça sera le 20. Et je lui donne tout. Et en allant au marché, il fait tout tomber. Plus facile à dire pardonne, mais je dirais si je pardonne, et puis je trouverai le substitut. Les degrés de l'offense. Il a touché à ma réputation. Il est allé dire des mauvaises choses, mais concernant. Dans le désarroi, je suis venu lui livrer un secret. Garde ces choses, j'arrive pas à garder cela. Tu vois, malgré mes 22 ans, plus de cela, mais je suis sorti avec le père de mon ami. Prie pour que Dieu m'aide. Troublé, tu as demandé pardon à Dieu, mais tu as dit, c'est bon que tu en parles à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez garder les secrets? Quelqu'un essaie de définir les secrets, dit, les secrets, ce n'est pas quelque chose que l'on ne dit pas à l'autre. Mais c'est quelque chose que l'on dit à l'autre en lui disant, ne dit à personne. Donc normalement, il faut aller au bâté. Bombangaï, vraiment. Elle aussi, quand elle apprend, elle rencontre ceux qui nous disent Piringaï. Mon intime. Normalement, je ne devais pas dire. Mais pourquoi quand Yuko est sapé mon touté? Oui, Anne. Abimagina papa. La manière dont on la voit là. Oui. Mais moi, j'étais étonné. Mais ne dis à personne. Lui aussi, il est marié. En plus, nouveau marié, donc, intimité plus, plus. Et va Karim, il y a des choses qui se passent dans l'église. Faut pas se fier aux apparences. Voilà, c'est comme on a dit. Karim, quand elle a prié, ma belle-sœur, Madame Luamba. En tout cas, Maman Nathalie, la Bible a raison. Maudit soit celui qui se confie. Et comme Ken fait
un dans la chair avec Nathalie. Nathalie vient lui dire, je ne sais pas comment il appelle, parce que je sais comment le pasteur Ken appelle Nathalie. Je ne vais pas le dire en public. Je ne sais pas comment Nathalie l'appelle, je n'ai jamais entendu. Lui, au moins, j'ai entendu. Et puis, il appelle comme il appelle. Maman Nathalie, Ningo Bengagewana. Et puis, il dit, quand le pasteur Ken apprend, il dit, oh, le pasteur Roland est quand même mon titulaire. En plus, c'est l'église. Et puis, le pasteur Roland aussi, il est marié. Et vous savez, le pasteur Roland, il peut informer directement ou indirectement. Indirectement, c'est quelquefois quand il prie, Seigneur. Il dit quelquefois, il y a des informations qu'elle apprend quand j'ai prié. La plupart des filles viennent me demander, Roland, quand tu priais, tu disais, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Et puis, c'est parti. Et puis, finalement, la personne apprend cela. Elle a voulu se livrer. Et on n'est pas étonné que des gens comme ça prennent des décisions. On gagne désormais. Ma problème n'angaï, n'en le koufanango. Je vais mourir avec mes problèmes. Je ne veux plus jamais. La qualité de l'offense influence surtout la miséricorde. Elle peut revenir demander pardon. Mais quand les conséquences sont tellement grandes, on a difficile à pardonner. Un serviteur de Dieu a eu sa réputation et son ministère détruite. Il semble que c'était une femme que l'on avait envoyée pour salir parce qu'ils étaient comme un peu... une compétition qui ne disait pas son nom dans l'œuvre. Il avait une église de plus de... Il avait commencé avec 200, en moins de 300, il est arrivé à 3000. Mais à côté, il y avait une jeune église qui a commencé la même période, mais qui n'avançait pas plus de 400. L'autre pasteur a payé de l'argent. Un jour, en plein culte, une jeune femme, il semble que ça s'est passé au Nigeria. Il est venu avec un bébé, il l'a jeté en plein prédication comme ça. Toi, tu ne viens plus sur... Sa femme était là, il jette l'enfant. La femme a pris ses clics et ses claques, elle est partie. L'église se vide et le dimanche d'après, il y avait 150 à 120 personnes. Il a voulu s'expliquer, personne ne voulait croire. Et il a repris l'œuvre de Dieu timidement. Il en avait peut-être 800. Ses pasteurs étaient un jour dans son bureau, il semble, quelques immeubles, au 8e étage. Il voit une jeune dame venir qu'il ne connaissait pas. Des années après, on m'a dit 3 ou 4 ans. Est-ce que tu te souviens de moi? Il dit, non. C'est moi qui suis venu jeter cet enfant. En fait, c'était un enfant ramassé. Et on m'avait payé de l'argent. Tout ce que j'avais fait était faux. Je viens te demander pardon. Cet homme regardait et tremblait. Il dit, j'ai perdu ma réputation. J'ai perdu mon foyer. Et j'ai perdu mon église. Il dit, je veux bien te pardonner, mais j'aimerais que tu comprennes juste que tu as fait mal. Il est sorti, il a pris quelques plumes, une vingtaine. Il a donné à cette femme, il a ouvert la fenêtre de son bureau. Il a dit, jette ces plumes. La femme a jeté les plumes et vous savez les plumes comment ça va. Il a dit on va rester une heure. Une heure après il dit descends et va me rechercher chacune de ces plumes. 2 heures après sur la vingtaine de plumes la femme est revenue avec 2. Il dit j'ai fait un gros effort mais j'en ai retrouvé 2. Il dit non va encore 2 heures. 2 heures après il est revenu une seule plume. Il y en avait 3, 17 introuvables. Il dit voilà ce que tu as fait. Les conséquences de ce que tu as fait sont allées loin. Au jour d'aujourd'hui, si tu peux essayer de corriger, tu corrigeras une infime partie. Et dis, je te pardonne, mais prends conscience de ce que tu as eu à faire. Les décrets de l'offense influencent quelquefois la qualité de la miséricorde. Et je termine en parlant de l'autre chose qui influence la qualité de notre miséricorde, c'est la profondeur de notre relation avec Dieu. Car c'est de cette relation que nous pouvons retirer la force. La force. C'est de sa relation que Christ pouvait dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est de la force de sa relation qu'Étienne, en train d'être lapidé, pouvait dire, ne leur impute pas ses péchés. Et je l'ai dit dimanche passé, Étienne, quand il était lapidé, il n'était pas sous anesthésie. Il sentait chaque pierre. Je me demande où est-ce qu'il peut trouver la force. Mais il tire cette force de celui avec qui il est en action. Et Joseph aussi a pu pardonner. Parce qu'il était en relation avec Dieu. Ce matin, en terminant, j'aimerais lancer un appel et un seul. libère quelqu'un de ton cœur. Je sais pas la quantité et la qualité de l'offense que tu as subie. J'en parlerai dimanche prochain. Celui qui ne pardonne pas est lui-même, elle-même esclave. Il arrive des fois, ceux qui nous ont offensés sont libres. Se promènent librement. Je parlerai de l'influence sur le plan physique. Le manque de miséricorde peut entraîner des maladies. Ulcère d'estomac. Cirrhose des foies. Et il est prouvé scientifiquement que ceux qui ont de l'amertume sécrètent des choses négatives. Quand vous refusez de faire miséricorde, c'est plus vous-même. J'aimerais nous inviter ce matin à baisser nos têtes. Je ne sais pas qui t'a offensé, qu'est-ce qu'il a fait. Mais quelqu'un ce matin veut dire, Seigneur, tu m'as parlé. Je veux faire comme Joseph. Je vais soulager l'autre. Mais je ne sais pas, Seigneur, si je peux répondre des relations normales ou des rapports normaux. Seigneur, tu sais combien j'en suis incapable et je ne veux pas me hasarder à te promettre de réhabiliter les autres totalement. J'aimerais te dire simplement ce matin, c'est mon désir d'en arriver là. Aide-moi. Y a-t-il quelqu'un ce matin ici à Lisanga qui veut dire j'ai été offensé? J'en ai souffert. Et j'en souffre encore. Et Dieu m'a parlé ce matin. Je veux libérer quelqu'un. Il y a une femme qui doit libérer sa belle famille. Il y a une jeune femme qui doit libérer sa belle-mère. Elle a été méchante. Elle a dit des méchancetés. Tu n'en parles pas souvent à ton mari, mais ça t'a rongé, ça te ronge. Elle a fait un moment où tu étais faible, dos contre les murs. Combien quelquefois on aime que les gens nous donnent des coups quand on est fort, mais ces coups, je les ai reçus. À un moment où j'avais besoin de réconfort, à un moment où j'avais besoin qu'on m'ait fortifié, elle est venue m'écraser. Il y a une jeune fille qui en veut un jeune homme de l'avoir laissé tomber après autant d'années de fiançailles. Il y a une jeune femme à Lisanga, tu as supporté les études de ce jeune homme. Tu l'as connu, il n'avait rien. Ses études, c'est qu'il devait amener en chambre à l'université pour manger, ça venait de toi. Tu t'es sacrifié. Tu t'es même privé de certaines choses pour lui. Et puis, non seulement qu'il t'a laissé tomber, mais il t'a sali. Non, tu n'es pas blessé. Tu es détruite. Il y a quelqu'un ce matin, ta réputation a été détruite par quelqu'un. Je le sens dans mon cœur, il y a une jeune femme qui vit mal une séparation, une rupture, un divorce. Tu en veux à cet homme qui t'a volé les plus belles années de ta vie. Mais quelquefois, tu t'en veux aussi à toi-même d'avoir cru en lui. Mais la plupart des fois, tu lui en veux. Tu lui en veux à cause de ton aujourd'hui et de l'incertitude attachée à ton demain. Tu lui en veux parce qu'en même temps où toi, tu es dans l'incertitude, lui, il s'amuse. Lui, il vit normalement. Et quand tu veux ne plus lui tenir rigueur, c'est quand tu as besoin de certaines choses et que tu ne les as pas, que ça remonte. Il y a quelqu'un ce matin qui doit crier et sortir même des rangs, venir ici ou à Lisanga devant. Tu veux dire, Seigneur, aide-moi, je suis comme David. David blessé par Joab. David blessé par Shimei. Je n'ai pas toujours exprimé cela, mais c'est au travers de la gorge. Il y a quelqu'un comme Esaü qui a conçu de la haine. Parce qu'on lui a arraché les biens les plus précieux. Ah, il y a plusieurs encore qui doivent s'élever. Alors que ces cantiques d'autrefois montent dans mon cœur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur.
Il y a quelqu'un qui doit ouvrir son cœur. Il dit, Seigneur, donne-moi le cœur de Joseph. Je fais miséricorde.
Si vous avez été touché par ce message, vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter, s'il vous plaît, au numéro 089 80 48 889 ou le 099 93 61 670. Retrouvez-nous sur le site www.cmphiladelphie.org. Venez communier avec nous sur l'avenue de la science au numéro 4935, référence École La Puisette, Kinshasa Gombe. Que Dieu vous bénisse.